André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. De nos jours, de nombreux auteurs sont édités, mais le lectorat n'est plus toujours au rendez-vous, car lire prend du temps, beaucoup de temps. Dans une société dominée par des lois du marché, où nous cherchons de plus en plus à gagner du temps, à faire vite, où lent ne rime plus avec rentable, on viendrait à se demander quelle place la littérature occupe-t-elle dans nos vies. On se tourne alors vers le spectacle vivant qui est preneur de bon nombre d'ouvrages pour adaptation théâtrale et cinématographique. Bonjour Véronique Maumy.
Bonjour André.
Vous êtes comédienne et en tant que comédienne, mais pas seulement, vous vous intéressez à la littérature, vous animez des rencontres, livres et auteurs avec des écrivains locaux et leurs derniers ouvrages à Ronces-les-Bains, ainsi que des lectures de textes. Vous avez participé à la 12e édition de Cita Livre, événement littéraire régional qui a eu lieu les 19 et 20 avril au château d'Oléron, et vous êtes venu aujourd'hui nous parler d'un auteur que vous avez rencontré. Il s'agit de Yasmina Kadra. Véronique, pourquoi ce choix ?
Ce choix est un choix dont je rêvais depuis très longtemps, d'abord de rencontrer Yasmina Kadra. Parce que cet homme, rien ne le prédestinait à écrire. Il le disait lui-même d'ailleurs, il le dit toujours, « Je suis du désert, je suis née dans le désert. Tout le monde est poète dans le désert, le vent raconte une histoire. » Les grains de sable racontent une histoire, tout est musicalité. Et il voulait vraiment parfaire son rêve d'enfant en voulant devenir écrivain. Mais Yasmina est née donc en 1955, aux portes du Sahara algérien. Mais malheureusement, même s'il savait qu'il devenait et qu'il deviendrait écrivain, son père le confiera dès 9 ans à l'institution militaire où il passera 36 années de sa vie. Il écrivit sa première nouvelle à l'âge de 11 ans, son premier recueil à l'âge de 17 ans, et non pas sous le nom de Yasmina Kadra, mais sous son vrai nom, Mohamed Moulessoul. Il s'accrochera pendant sa carrière militaire qui fut longue et pour lui pleine de déboires, il s'accrochera toujours à son rêve d'enfant, à savoir écrire, écrire et toujours écrire. Il a été connu du grand public à partir de 1997, par la parution de son premier roman, Morituri. Et ce Morituri lui a permis, grâce à, je dirais, à un commissaire, qui est le commissaire Loeb, et les aventures de ce commissaire Loeb à travers Morituri, à dénoncer un petit peu cette Algérie avec laquelle il n'est pas toujours en adéquation avec son pouvoir politique, avec tout ce qui se passe, et même ce qui se passe encore actuellement. Et c'est un peu la raison pour laquelle il a pris cette saga de Morituri avec 6 romans et qu'il s'est fait connaître du grand public. En 2000, il quitte l'Algérie et l'armée et vient s'installer en France avec sa famille pour se consacrer alors là vraiment qu'à la littérature, sa passion première.
Mmh. Et qu'est-ce qui vous a marqué dans l'œuvre de Yasmina Kadra, même si ce romancier n'est plus à présenter au vu de sa trentaine de publications fictionnelles et de ses nombreux romans traduits en 53 langues et édités dans 56 pays ?
Vous savez, André, le parcours de Yasmina Kadra est à l'image de l'intelligence de son œuvre, riche, dense, avec une plume, je dirais, parfois dure, sanglante, mais toujours empreinte de poésie et d'espérance. C'est la raison pour laquelle son œuvre a été couronnée, et cela va sans dire, de nombreux prix. Chez Yasmina, 4 singularités qui m'ont vraiment marquée. La première singularité chez lui, Yasmina, vous allez me dire, mais Yasmina, ce n'est pas un prénom masculin puisqu'il s'appelle Mohamed. Eh bien oui, Yasmina a voulu contourner, et il a sûrement eu raison, la censure militaire et préserver sa vie privée. C'est la raison pour laquelle, en 1989, il a pris ce pseudonyme de Yasmina Kadra. Yasmina Kadra, ce sont les deux prénoms de son épouse. Alors, je vous dis franchement, une véritable révolution dans un monde aussi conservateur que le monde arabo-musulman. D'ailleurs, je vais vous dire une anecdote dont il m'a fait part au Salon du Livre à la citadelle d'Oléron. L'anecdote, c'est que son œuvre a été consacrée dans un pays arabe qui est le Koweït et il a été reçu par le premier ministre du Koweït. Et donc, la première question de ce premier ministre, avant de parler de son œuvre, a été de lui dire « Mais attendez, vous, qui êtes un officier supérieur, qui êtes un berbère, hein, né dans la porte du Sahara, qui êtes musulman, arabe, mais pourquoi avez-vous fait ce choix de prendre le nom de prénom féminin et les deux prénoms de votre épouse ?» En sachant, comme tout le monde le sait, que dans ces pays arabes, on ne parle pas de la femme, hein, voilà, on prend encore moins ses prénoms. Et donc, il a carrément répondu à ce premier ministre sans, quelque part, se dégonfler, si on peut le dire ainsi. Tout simplement, j'ai pris ces deux prénoms parce que je n'aurais jamais pu regarder ma femme avec dignité droit dans les yeux. Et c'est vrai que Yasmina Khadra a un engagement indéfectible pour l'émancipation de la femme musulmane. Ces personnages féminins dans tous ses romans sont magnifiquement décrits. Et d'ailleurs, il a écrit cette phrase, et on comprend toute l'admiration qu'il a pour la femme avec un grand F. Voilà ce qu'il dit. « Le malheur déploie sa patrie là où la femme est bafouée. » Et il sait, croyez-moi, de quoi il parle. Et ce qui a été très beau, c'est que sa femme, qui lui a prêté ce des prénoms, lui a dit aussi une phrase presque biblique en lui disant « Tu m'as donné ton nom pour la vie, je te donne le mien pour la postérité. » Et vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment magnifique de nos jours. Donc ça, c'est la première singularité que j'ai auprès de Yasmina Khadra, parce que peu d'auteurs ont fait ce choix, surtout d'auteurs de pays arabo-musulmans. Alors, sa deuxième singularité, c'est son écriture. Alors oui, son écriture, elle est vraiment... elle est propre à lui, ce qui est normal. Car même dans les pires horreurs parfois décrites, elle demeure toujours fine, ciselée, au plus proche de l'émotion. Ses personnages nous parlent tant ils transpirent de vérité. Mais aussi, et c'est la patte, si je peux ainsi m'exprimer, quadrienne, toujours avec cette touche de poésie et de sensibilité consolatrice, pleine d'espoir et de liberté. Je citerai simplement une phrase d'un de ses livres, le plus connu, entre autres, « L'attentat », qui fait partie de la trilogie « Les sirènes de Bagdad »,« Les hirondelles de Kaboul »,« L'attentat ». Cette phrase résume tout ce qu'il pense et tout ce qu'il transmet comme émotion. Voilà ce qu'il dit. « Il restera toujours tes rêves pour réinventer le monde que l'on t'a confisqué. » Et puis, aussi, la troisième singularité de Khadra, qui me fait un peu rire parce que à chaque fois qu'il rentre dans une histoire, il va dans un pays et il étudie la psychologie du pays de chacune de ces histoires qu'il compte et qu'il met en scène, en opérant des choix géographiques nombreux et diversifiés, comme Cuba. À un moment, il est parti à Cuba, il a écrit « Dieu n'habite pas la Havane ». Voilà, je trouvais ça très... C'est un livre qui est aussi très... avec des vérités, mais avec une pointe d'humour. L'Afghanistan, bien sûr, les hirondelles de Kaboul, l'Irak, la Libye, sans oublier l'Algérie. Et dans son presque dernier roman, je dis presque car un nouveau est sorti là juste maintenant, il y a 2 mois, mais dans son dernier roman, il a choisi la France. France, pays qu'il connaît puisqu'il réside à Paris. Et puis enfin, sa quatrième particularité, c'est la force de ses dialogues, des relations humaine et improbable qu'il met en scène, qu'il tisse entre ses différents personnages. Rien de surprenant qu'il ait su créer un magnifique pont d'ailleurs entre la littérature et les autres mondes artistiques, le cinéma d'animation, le théâtre. Les dramaturges, les cinéastes, les bédéistes n'ont qu'une envie, c'est se pencher sur les œuvres de Yasmina Khadra. Et ce qui est très sympathique de sa part, c'est qu'il leur laisse toute liberté pour mettre ses œuvres et les adapter. Donner une nouvelle vie aux mots enfermés dans les pages d'un livre, c'est vraiment ce qu'il aime faire, tant chaque personnage de Yasmina s'avère être convaincant.
En effet, on se souvient de l'adaptation cinématographique de « Ce que le jour doit à la nuit » en 2012 par Alexandre Arcadi, et plus récemment, le film d'animation sélectionné au Festival de Cannes en 2019, réalisé par Zabou Breitman. Après le roman « Les hirondelles de Kaboul », un roman édité en 2002. Vous avez souhaité vous arrêter sur ce roman. Vous pouvez nous en dire plus ?
Oh oui, on peut en dire même beaucoup. « Les hirondelles de Kaboul », comme je vous l'ai dit, c'est le premier volet d'une trilogie. Suivront après « L'attentat » et « Les sirènes de Bagdad ». Alors c'est vraiment dans ces trois ouvrages, un hommage à la femme dans une ville sans espoir. Dans les Hirondelles de Kaboul, l'action se déroule en 1998 à Kaboul, lorsque la capitale afghane est sous le joug des talibans qui exercent souvent avec violence leur autorité totalitaire.
Les Hirondelles, c'est un symbole de joie, de bonheur, de liberté pourtant.
Eh bien justement, c'est cette liberté-là qui est le rêve des habitants de la ville de Kaboul, terrorisés, se faisant arrêter pour des crimes qui n'ont ce nom que par l'interprétation extrémiste de la religion. Les Hirondelles font écho au chant des oiseaux, que l'on devait s'arrêter pour écouter. La musique, vous le savez, est interdite par les talibans. Mais la musique n'est-elle pas le véritable souffle de la vie? Comme dit Yasmina Kadra, on mange pour ne pas mourir de faim, mais on chante pour s'entendre vivre. Alors c'est un livre court, 148 pages. C'est un hymne aux femmes humiliées de Kaboul. L'auteur décrit la complexité de la société musulmane, meurtrière ou pacifique, folle ou sage. Dans cette nouvelle, presque de manière lapidaire, on est emporté par une intrigue très habilement construite. C'est le destin de deux couples très différents qui vont se croiser dans la ville de Kaboul.
Parlez-nous de ces personnages qui semblent vous avoir particulièrement touché.
Ils ne peuvent que toucher, car les livres de Kaboul, même si c'est un livre qui garde une espérance, il est à l'image d'une tragédie antique. Je vous cite simplement un passage du livre, page 97. Voilà ce qui est dit. Vivre, c'est d'abord à se tenir prêt à recevoir le ciel sur la tête. Si tu pars du principe que la vie n'est qu'une épreuve, tu es équipé pour gérer ses peines et ses surprises. Prends les choses comme elles viennent. N'en fais pas un drame ni un plat. Ce n'est pas toi qui mènes ta barque, mais le cours de ton destin. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve à travers ces quatre personnages des Hirondelles de Kaboul. Quatre personnages qui sont, en fin de compte, mis par deux couples. Le premier couple, c'est Mohsen et Zunaharia. C'est un jeune couple. Lui, il est fils de bourgeois. Elle est avocate, brillante, très belle. Ils s'aiment d'amour et ne supportent plus les règles islamiques rigoureuses imposées à la population. Ils regrettent d'ailleurs le temps où ils écoutaient de la musique, se promenaient dans la rue et riaient. Ils veulent toutefois croire en l'avenir, jusqu'au jour où Mohsen, déboussolé, erre dans la ville de Kaboul et participe à la lapidation d'une femme. Et le pire, c'est qu'il en a éprouvé une jouissance coupable. Et Mohsen, quand il rentre chez lui, par désir de transparence et de vérité vis-à-vis de la femme qu'il aime, il lui avoue son geste. Et cette lecture, j'aimerais vous la faire, comme quoi le terrorisme peut amener des personnes à devenir, à vivre presque un enfer sur terre.
On vous écoute.
Voilà ce que dit Mohsen à sa femme, Zunaria, lorsqu'il rentre chez lui. « Tu es le soleil qui me reste, Zunaria. Sans toi, ma nuit serait plus profonde que les ténèbres, plus froide que les tombes. Mais pour l'amour du Seigneur, si tu trouves que je change vis-à-vis de toi, que je deviens injuste ou méchant, dis-le-moi. J'ai le sentiment que les choses m'échappent, que je ne contrôle plus. Si je suis en train de devenir fou, aide-moi à m'en rendre compte. J'accepterai de décevoir le monde entier, mais je m'interdis de te faire du tort. » Zunaria se fige. Ce qu'elle lit dans son regard perdu la bouleverse. Mohsen se met à haleter. Il raconte terrifié par ses propos. Une prostituée a été lapidée sur la place. J'ignore comment je me suis joint à la foule de dégénérés qui réclamaient du sang. Je me suis surpris à ramasser des cailloux et à la mitrailler moi aussi. J'étais devenu fou, Zunaria. Comment ai-je osé? Ni les menaces des uns, ni les promesses des autres ne m'ont convaincue de prendre des armes et de donner la mort. Depuis, je n'arrête pas de regarder mes mains que je ne reconnais plus. J'ai peur de moi, Zunaria. Je n'ai plus confiance en l'homme que je suis devenue. Vous voyez, l'enfer, s'il existe, il est sur la terre et il est situé en Afghanistan. Tout est bouleversé dans le quotidien de Kaboul, une ville en ruine. Les Afghans sont terrifiés, déboussolés, jusque dans leurs gestes et leurs actes les plus anodins pour nous. Zunaria, suite à ce témoignage que lui fait son époux, est emportée bien sûr par la colère. Alors, pour se réconcilier, ils partent se promener dans Kaboul. Mais le terrorisme est toujours présent. Mohsen a été sommé lors d'un contrôle d'aller à la mosquée, écouter la prêche, tandis que Zunaria doit l'attendre sous un soleil de plomb, emmitouflée dans son tchadri étouffant. De retour à la maison, elle est de nouveau, et on peut le comprendre, emportée et humiliée par cet incident qui tient encore à cette religion si forte. Et elle en veut à Mohsen de sa passivité et elle a une haine des talibans qui s'en voient décuplés. Elle refuse dès lors de parler à Mohsen. Elle le punit en s'imposant à domicile le port de la burqa. Et elle dit « Je hais tous les hommes ». Lors de leur dispute, Zunaria pousse Mohsen, qui tombe en arrière, sa nuque porte sur un meuble et il en meurt. Voyez jusqu'où ça peut aller. Condamné expéditivement à mort pour avoir assassiné son époux, la voilà emprisonnée. Alors elle se trouve dans la prison des femmes, et dans cette prison des femmes, on va faire connaissance avec Atik. Atik, c'est le gardien de cette prison, et on rentre justement dans ce troisième personnage et dans ce deuxième couple. Atik est gardien donc de la prison des femmes, il est marié à Musara, qui est à l'agonie. Atik est usé et amer. Il a perdu le goût de vivre et on peut là aussi bien le comprendre. Une fois en cellule, n'ayant plus rien à perdre, Zunaria rejette son tchadri et demeure prostré. Atik la regarde. Il est frappé par sa jeunesse et sa beauté et il en tombe amoureux. Musara, lorsque Atik rentre chez lui, constate le changement de son époux. Elle est émue de constater qu'il est capable de sentiments, ce dont elle avait fini par douter. Au seuil de la mort, Musara se sacrifie et elle décide, pour permettre à Matik de vivre cet amour inespéré avec Zunaria, donc elle voit bien qu'il est amoureux, elle va lui dire « Profite de l'anonymat du tchadri pour prendre la place de Zunaria et c'est moi qui me donnerai pour elle. » Là aussi, le don de soi.
Quel sacrifice.
Le sacrifice vraiment dans toute sa beauté qu'on retrouve là aussi, presque à la fin du roman des Hirondelles de Kaboul, mais là aussi avec des sentiments très forts. Il se trouve pages 138 et 139, que je vous lis. Voilà ce que dit Musara à Atik. « Tu étais malheureux parce que je n'ai pas su donner un sens à ta vie. Si tes yeux ne parvenaient pas à rendre sincères tes sourires, c'est à cause de moi. Je ne t'ai offert ni enfant, ni de quoi t'en consoler. » Lorsque tu me prenais, tes bras cherchaient quelqu'un qu'ils n'ont jamais trouvé. Je n'étais pas la femme que tu avais aimée. J'étais l'infirmière qui t'avait soignée et mis à l'abri et que tu as épousée en signe de gratitude. J'ai essayé d'être belle et désirable pour toi. Je souffrais de ne pouvoir y parvenir. Mais ce que je veux te dire est simple, mais pénible. Mais il est nécessaire de l'admettre. C'est quoi la vie et c'est quoi la mort? Les deux se valent et les deux s'annulent. C'est vrai que dans une ville comme Kaboul, on ne peut que dire ce genre de phrase. Voilà, elle continue, Musara. Et voilà ce qu'elle continue à dire à Atik. De toute façon, tu le sais, je suis condamnée. Dans quelques jours au plus tard, dans quelques semaines, le mal qui me ronge finira par me terrasser. Je ne voudrais pas prolonger inutilement mon agonie. Cette femme ne va pas mourir. Elle sera tout ce que je n'ai pas pu t'offrir. Tu ne peux pas mesurer combien je suis heureuse ce matin. Morte, je serai plus utile que vivante. Je t'en supplie, ne fausse pas ce que la chance consent enfin à te fournir. Écoute-moi pour une fois. Quelle belle parole. Alors, pour continuer l'histoire, la substitution, bien sûr, va se faire. C'est-à-dire que Musara va prendre la place de Zunaria. Mais Zunaria aurait refusé qu'une autre personne meure à sa place. Et donc, Atik va quand même la faire sortir de la prison en lui donnant rendez-vous après, je dirais, cette cérémonie macabre. Mais Zunaria va s'enfuir. Zunaria ne veut pas de ce deal, si on peut appeler ça ainsi. Et c'est comme ça que finira le roman, comme je disais, comme une tragédie quelque part. Lorsqu'Atik sortira, il ne retrouvera pas Zunaria après l'exécution de sa propre épouse et Atik devient Fou de douleur, mais de douleur d'amour, il va courir partout dans les rues de Kaboul, arrachant chaque chadri à chaque femme. Il se déchaîne et finira par et sous une bastonnade. Voyez, le printemps des hirondelles semble encore bien loin. Mais n'oublions pas, en refermant ce livre, cette prophétie. Toute chose en ce monde a une fin et aucun malheur n'est éternel.
Oui, un roman très fort, mais une véritable tragédie antique, comme vous le disiez tout à l'heure. Un roman coup de poing, mais aussi une magnifique invitation à réfléchir à la notion de liberté, plus que jamais d'actualité. En cette fin 2024, Yasmina Kadra nous offre un roman plus lumineux, avec toujours des personnages hauts en couleur, mais pleins d'humanité. Il s'agit de Cœur d'amande.
Oui, Cœur d'amande. Rien que le titre déjà, c'est tout doux, c'est tout suave. On a l'impression qu'on plonge dans un loukoum. Ce livre, je vous avoue, André, je l'ai lu première fois, il m'a un peu interloquée parce que je ne retrouvais plus le style de Yasmina Kadra. Un style certes poétique, mais on était bien loin de cette ère guerrière et de ces dénonciations d'un pouvoir terroriste. Cœur d'amande, ça se passe d'abord en France, ça se passe au pied du Sacré-Cœur. Et ici, on rentre dans l'histoire d'un jeune homme trentenaire qui souffre d'un handicap. Il est de petite taille. Il a été rejeté par sa mère et ce jeune homme s'appelle Nestor, mais on le surnomme Ness. Il vit au pied donc du Sacré-Cœur à Paris avec sa grand-mère qui l'a recueilli. Peut-être un léger parallèle, je ne sais pas, avec le roman de Romain Gary, La vie devant soi. Et alors, cette grand-mère qui l'a recueilli, il l'aime le plus au monde. C'est ce qu'il appelle sa mamie chérie, qui se met à parler au tableau, qui se met à laisser couler l'eau, qui se met à croire être au parc Monceau, alors qu'elle est à Barbès, parce que sa mamie chérie, elle est âgée, elle a 80 ans, et par moments, elle perd un peu la boule. C'est vrai que cette relation entre ce Nestor, ce petit-fils et sa grand-mère est très touchante. On a l'impression qu'on est dans un conte très contemporain, mais quand même, où Yasmina Kadra met toujours en avant ses valeurs auxquelles il tient plus qu'autre chose, c'est ses valeurs d'humanité, ces valeurs de fraternité, de solidarité. Et c'est vrai que dans ce livre, il y a bien sûr une part belle qui est faite à l'handicap, qu'on le surmonte ou pas, l'isolement qu'il peut entraîner, le regard des autres, comment en faire une force. Mais Cœur d'amande, et c'est là où c'est intéressant, est aussi une ode à l'amitié, à la littérature et à l'écriture. D'ailleurs, Yasmina Kadra voue une fascination et a une fascination pour la littérature. Et il demande, ce petit Nestor, et on rencontre là, je dirais, la touche de Kadra, demande, la grand-mère plutôt demande à Nestor de lui lire des passages d'un livre qu'elle adore. C'est Le Lion de Joseph Kessel. Joseph Kessel est un des auteurs préférés de Yasmina Kadra par ses aventures. Et cette grand-mère va initier comme ça ce Nestor à la littérature, car la littérature, le livre a un pouvoir, et surtout, c'est très salvateur. Et voilà ce que dit cette grand-mère à son petit-fils pour l'initier à la littérature. Ça se trouve, page 61 du livre, et donc je vais vous lire ce passage. La grand-mère auquel fait référence Yasmina Kadra, bien sûr, on pense tous, et d'ailleurs, c'est dans la dédicace du livre, est-ce que ça a été dédié à sa grand-mère, à Asnia? Lorsque je l'ai interviewée, il m'a dit « Non, ce n'est pas ma grand-mère Asnia, parce que je n'ai pas eu la chance de rencontrer mes grands-parents. » Et donc, cette Asnia, cette grand-mère, ce n'est pas sa grand-mère, mais sa belle-mère, auquel il déploie un amour très profond, parce qu'elle lui a inculqué, elle aussi, beaucoup de valeurs, elle a élevé ses enfants, et il a adoré sa belle-mère, qui est partie récemment suite au Covid. Et donc ce livre lui a été dédié, comme il est dédié d'ailleurs, on pourrait le dire, à toutes les grand-mères du monde. Et voilà comment il voit sa grand-mère, qu'il voit ses racines, et à travers Nestor, il va justement lui donner cet amour de la littérature, comme lui a donné quelque part aussi sa belle-mère. Alors, je vous lis ce passage, page 60 de Cœur d'Amande. Nestor et sa grand-mère. Voilà ce que dit la grand-mère. « Lis-moi un passage du lion. »« Mais il se fait tard, mamie. » Elle rabat furieusement le plat de ses deux mains sur ses cuisses. « Ok, mamie, je me rends. » Je retourne dans le salon lui chercher son Kessel préféré, que je déloge d'entre un bordas et le choix de Sophie de William Styron. Mamie ferme les yeux et me prie de commencer la lecture à partir du chapitre 5 de la deuxième partie. Je lis. C'était dans la zone la plus dénuée de la réserve que le vieil Okalaglu et Orianga avaient cherché un gîte pour le séjour de leur clan. « Un site ! » me corrige-t-elle. « Qu'est-ce que j'ai dit ? Gîte ! Pardon, un site pour le séjour de leur clan. Continue. Les Maasai, fils des grands espaces arides, se méfient des terres boisées. Le culte des arbres, la religion des forêts sont contraires à l'instinct de leur peuple. Mais mamie, si tu l'as appris par cœur, ce livre, pourquoi m'empêches-tu de vaquer à mes occupations ? Il y a le match de l'année à la télé. Lis ! Je m'exécute. Je le fais. Mamie est l'amour de la vie. Je l'aime si fort que je ne pense pas pouvoir aimer quelqu'un d'autre autant qu'elle. Elle m'a élevée du mieux qu'elle pouvait. Lorsque j'avais décroché du collège, elle m'a donné des cours à la maison et a veillé à ce que je sois instruit. Elle m'a fait lire des tas de romans qu'elle ramenait de la bibliothèque ou achetait au rabais dans des vide-greniers. Elle me disait « Tu n'as pas les jambes d'un sauteur à la perche, ni les poumons d'un coureur de fond. Tu n'as pas la dégaine de Jean-Paul Belmondo, ni la voix d'un baryton, et tu n'as aucune chance d'être élu président. » Mais si tu as un cerveau qui démarre au quart de tour et une imagination fertile, tu pourras écrire. Essaye et peut-être enterreras-tu quelque chose qui te permettra de donner un sens à ta vie. Je trouve que c'est un très beau message qu'on fait à une jeunesse, à un jeune lectorat. Et voyez, après plusieurs lectures de ce livre, je me suis demandé si Yasmina Khadra d'abord n'avait pas fait un peu une pause dans sa vie littéraire, une genre de respiration, et s'il n'a pas fait ça justement pour faire voir que la lecture et la littérature sont très salvatrices, surtout pour des jeunes qui, de nos jours, alors bien sûr ne connaissent pas en France tous les malheurs que connaissent ces pays arabes, mais néanmoins sont souvent en perte d'illusion. Et ça leur donne un certain, je dirais, regard sur la vie de tous les jours, une certaine quiétude. Et je trouve que ce livre fait du bien. Il fait du bien, et peut-être d'ailleurs, s'il s'appelle Cœur d'Amande, c'est pas pour rien, parce que ce petit Nestor a fait beaucoup de bien autour de lui. Il a aimé sa grand-mère, il a toujours été bienveillant auprès d'elle, et c'est la raison pour laquelle on le surnommait Cœur d'Amande.
Merci Véronique, au plaisir de vous retrouver alors dans une prochaine émission pour nous parler d'un autre auteur.
Mais ça serait avec une grande joie de venir partager des textes et des beaux textes parce que c'est vrai que la littérature est souvent le pied de beaucoup de scènes de théâtre et c'est une scène de théâtre déjà oui, quand on lit un livre.
Tout à fait, merci beaucoup. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. Écoute ton cœur. Il est le seul à te parler de toi-même, le seul à détenir la vérité vraie. Sa raison est plus forte que toutes les raisons du monde. Fais-lui confiance. Laisse-le guider tes pas. Et surtout, n'aie pas peur. Elle est bien sûr de Yasmina Khadra. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site d'Altitude FM, altitudefm.com, et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale FNCTA. fncta-medipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur. C'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous. Et à mercredi prochain. Au revoir.